Pour comprendre et débattre, une rubrique d'information proposée par Paul Masson et Radio PFM. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes habitant arrageois, membre de Culture et Liberté et d'Attaque. On poursuit aujourd'hui notre série consacrée à l'éducation populaire. Alors, la semaine dernière, on a parlé ensemble de 36, hein, de la reconnaissance officielle et par le gouvernement du rôle de l'éducation populaire. Aujourd'hui, on en arrive à la guerre 39-45. Alors, on peut imaginer que la Seconde Guerre mondiale coupe quand même, casse cette dynamique de 36 en ce qui concerne le mouvement d'éducation populaire.
Alors, on peut dire l'organisation de l'éducation populaire qui était mise par le gouvernement Blum, bien sûr, il est complètement cassé. Hein ? Mais en même temps, le mouvement qui reconnaît la place de la culture va prendre une autre forme pendant la guerre et ne va pas disparaître. La forme que je voudrais un peu mieux expliquer, c'est à ce moment-là va se créer, qui va avoir une incidence importante pendant la guerre, pendant la résistance et après-guerre, ce qu'on a appelé l'école des cadres d'Uriage. Alors Uriage, c'est une commune de l'Isère. Et il va y avoir à Uriage un certain nombre de jeunes cadres, des types qui avaient des diplômes, qui vont s'organiser pour dire on va accompagner la résistance en assurant un encadrement militaire et culturel aux résistants. Les résistants viennent de toutes les classes sociales, de toutes les catégories sociales de la France. Hein. On a eu l'occasion d'en parler. Et on va avoir des cultures très très différentes. Quand il s'agit de se battre, il s'agit à la fois d'avoir des connaissances militaires et à la fois réfléchir. Donc eux, ils se donnent, on va former des équipes volantes qui vont aller aider les équipes de résistants. Et à cette occasion-là, il y a un développement culturel qui va se faire. Mais en même temps, l'école des cadres d'Uriage va penser, après la libération du territoire, si on veut libérer le territoire, c'est pas seulement pour libérer le territoire, c'est parce qu'on a une vision du monde. Et il s'interroge et il travaille sur la situation qu'ils vivent, la situation pendant la guerre, c'est la barbarie, c'est le nazisme. À l'espoir, on peut changer la société en 36 en donnant plus de place aux uns et aux autres. La réponse, ça a été, pour régler la crise de 1929, ça a été la guerre. Avec le fascisme, avec le nazisme, avec Franco en Espagne et avec la collaboration en France. C'est-à-dire que le camp de « on peut vivre autrement » a perdu. Et dans la résistance, il continue d'exister. Donc, l'équipe de l'Uriage pense aussi après-guerre pour aller vers une société autre. Et eux développent cette société autre, si on veut qu'elle existe, ce sur quoi il faut qu'on s'appuie. C'est le développement de la culture et de l'éducation. Ce qui s'opposera le plus efficacement à la barbarie, c'est la culture et l'éducation. Et il va y avoir toute une réflexion au cours de la résistance. Mais réflexion, action, ce n'étaient pas des gens qui étaient dans des bureaux. Non, ils étaient avec la résistance. Mais à cette occasion-là, il y a vraiment cette démarche qu'on a expliquée d'éducation populaire qui consiste, on agit, on réfléchit sur ce que ça produit et on améliore son action et on re-réfléchit sur les effets produits. Ça qui va se développer et qui va influencer l'éducation populaire.
Alors oui, justement, quelle était la portée de ce mouvement l'Uriage après 45?
Alors après 45, ça va avoir des effets. Par exemple, l'association qui est née à cette époque-là, Peuple et Culture, est directement liée des gens de l'Uriage. Et même dans les cabinets ministériels qui auront lieu après-guerre, on va avoir un certain nombre de gens qui ont été formés par l'école d'Uriage et formés par ce... Si ce n'est pas par l'école elle-même, par cette culture, cette approche de comment on peut transformer la société en faisant en sorte que les gens réfléchissent mieux. Ce que ça va avoir par rapport à l'éducation populaire et aux effets qu'il y aura par la suite, c'est que jusque-là, l'éducation populaire s'est essentiellement structurée autour du mouvement ouvrier. Alors qu'à l'occasion de la résistance, on va avoir dans la résistance à la fois des ouvriers, à la fois des paysans, à la fois des intellectuels. Et qu'après-guerre, le développement de l'éducation populaire sera moins marquée par la culture ouvrière uniquement, mais sera marquée par un échange de cultures. À la limite, ça sera la France qui adoptera, qui reconnaîtra la culture de l'éducation populaire, et ça sera plus seulement le courant ouvrier qui se reconnaîtra là-dedans. Et de fait, la forme de l'éducation populaire changera, et puisque ça sera plus une culture, ça sera une culture qui sera moins marquée par celle d'une classe, mais davantage par plusieurs classes. Même si, au niveau des objectifs, on est toujours sur les finalités de Condorcet. Former des citoyens par la culture, par le raisonnement, par l'esprit critique.
Paul Masson, merci. Alors, on va peut-être donner le programme de la prochaine rubrique pour comprendre et débattre. Ça sera mardi prochain. Donc là, on arrive à 45 et les mouvements qui voilà. Naissent à ce moment-là, les mouvements d'éducation populaire.
Voilà. Alors, en 1945, la prochaine fois, on regardera 1945 et qu'on pourrait dire, c'est l'explosion de l'éducation populaire.